maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Et maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Christian Lemay qui nous accueille dans son micro, comme d'habitude. Aïssen, bonjour Christian.
Mon propre micro.
Ah, cette année, c'est son propre micro, parce qu'il l'a lavé. Et donc, il est à Aïssen pour jouer, mais aussi avec des sorties, hein, dont on va parler évidemment. On démarre, mon bon Christian, sur la course des étoiles d'Andreas Pelikan. Donc, la course des étoiles, qu'est-ce que c'est?
La course des étoiles, c'est une sortie du mois de mai dernier. Et c'est un jeu dans lequel les joueurs doivent trouver de nouvelles planètes à des extraterrestres parce qu'il y a une supernova. Et là, le système solaire dans lequel ils sont va exploser. Il faut donc trouver une nouvelle planète.
C'est fort raccord avec l'année 2012, un peu la fin du monde.
Tout à fait. Et donc, chaque joueur a deux ou trois extraterrestres favoris parmi les cinq qui sont dans le jeu. Et à leur tour, les joueurs vont essentiellement jouer des cartes qui leur permettent d'avancer, de déplacer les 10 extraterrestres. À la fin de la partie, et la partie se termine soit quand un extraterrestre arrive au bout ou quand il n'y a plus de cartes à jouer, à la fin de la partie, chaque extraterrestre rapporte à ceux qui l'ont comme favori des points de victoire et celui qui en a le plus gagne la partie, évidemment.
Donc ça veut dire qu'au début de la partie, on reçoit une carte cachée ou...
Donc on a, en commençant la partie, un extraterrestre favori face visible et un jeton favori face cachée. Donc il y a une partie de l'information qui est visible et une partie qui est cachée. Au cours de la partie, on pourra rajouter un troisième favori. On pourra aussi échanger avec les autres joueurs. C'est plein de rebondissements. Et la petite twist intéressante dans le jeu, c'est que l'extraterrestre qui est en tête, qui termine premier, ne rapporte aucun point de victoire à ceux qui l'ont comme favori.
C'est un vrai challenge.
Oui. Oui, parce que les positions les plus payantes sont la deuxième et la troisième. Donc, dans ce jeu, il faut pousser pour évidemment que ces extraterrestres terminent deuxième ou troisième. Mais si on pousse trop, ben là, son extraterrestre termine premier et ça vaut plus rien.
Et donc, on a en fait des cartes et des figurines carton sur socle qu'on va mettre sur apparemment des cartes que je vois disposées en spirale sur la boîte. Donc, ça veut dire que c'est ça qui fait le parcours?
Oui, c'est ça. Donc, les cartes du jeu sont posées en spirale pour faire un système solaire.
Ah, évidemment!
Et rien de moins, on crée un système solaire au début de la partie.
En toute modestie.
Et donc, ce sont les cases sur lesquelles on se déplace. Quand on a fini d'épuiser la pioche, eh bien là, on va prendre les cartes qui étaient au centre et sur lesquelles les extraterrestres sont passés en début de partie. Et on va jouer avec ces cartes-là pour simuler la supernova et le fait que les planètes sont détruites par le soleil qui explose.
Et donc, à son tour de jeu, en fait, on joue une carte et on en reprend une autre.
Tout à fait.
Voilà. Et sur ces cartes, on a « Je déplace mon extraterrestre » ou « J'échange avec les autres ».
Voilà.
Voilà, tout simple.
C'est du très classique, mais très, très, très efficace et très malin. Oui. Un petit goût d'Irvenésy.
Voilà. Alors, on a un design qui est très, très chouette. Je ne sais pas qui a fait « Je vais chercher ». Tu sais qui est l'illustrateur, évidemment?
Oui, oui, j'en ai une petite idée.
C'est qui?
C'est Nayad, qui est assez bien connu pour Season, Stokiado et de très jolies choses comme celle-ci.
D'accord. Et donc, en fait, tu as créé des personnages avec lui. Enfin, il y a une idée de faire une petite famille d'extraterrestres?
Donc, le jeu vient dans le même format que La chasse aux monstres, qui est un jeu d'Antoine Boza qui connaît beaucoup de succès. Et c'est une gamme qu'on va allonger. Avec chaque fois des créatures différentes. Donc, on avait les monstres au début sous le lit. On a maintenant des extraterrestres. On aura des lutins, on aura des petits zombies et tout plein de créatures différentes. Et chaque fois, évidemment, c'est beaucoup de plaisir à créer les personnages qui font le jeu.
OK. Mais donc, c'est une gamme, mais on ne va pas retrouver les personnages d'exemple en exemple. Mais en tout cas, il y aura à chaque fois un petit univers de personnages.
Tout à fait. Un univers de créatures connues et qui sont différentes chaque fois.
Excellent. Et donc, Andreas Pelikan, on l'a vu sur Cache-Catch.
Cache-Catch, qui est un de mes jeux favoris et qui était, je crois, jusqu'à ce jour, mon Queen Game préféré. Oui. Et je crois qu'il vient d'être détrôné par Escape.
Cache-Catch, qui était un des tout premiers jeux que j'ai animé en soirée terrible en 2007. Donc. Bien, mais donc Escape, faudrait l'essayer, mais bon, ça n'est pas chez toi, donc on va pas en parler. Donc il y a deux autres jeux qui sont encore plus d'ambiance, qui sortent. Et donc le premier, on va faire... c'est pas faux, d'ailleurs, hein? C'est pas faux?
Non, 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 tout à fait.
C'est un jeu de Bruno Catala.
Et Ludovic Maublanc. Et c'est un jeu dans lequel... C'est un jeu questionnaire, mais dans lequel tout le monde connaît toutes les bonnes réponses, mais dans lequel la bonne réponse n'est pas souvent ce que l'on cherche.
Ça m'a l'air bien sympathique. Un exemple?
Alors, on a un lecteur qui lit à tous les autres une question, et la question s'adresse à tout le monde. Il va écouter seulement la première réponse qu'il entend. En même temps qu'il lit sa question, par exemple, de quelle couleur sont les schtroumpfs, il va révéler un signe aux autres joueurs. Les signes sont au verso des cartes. Donc, il révèle un signe qui indique s'il faut donner une bonne ou une mauvaise réponse à la question.
Lui ne le voit pas. Le questionneur ne le voit pas.
Il le voit, mais c'est pas important. Dans le fond, l'important, c'est que ce soit les autres joueurs qui le voient. Et s'il montre donc un point vert, le professeur, qui est la caricature de Bruno Catala, et le mot vrai, il faut donner une bonne réponse. De quelle couleur sont les schtroumpfs? Le premier joueur qui répond bleu marque le point. Par contre, s'il montre le mot faux, le cancre, qui est la caricature de Ludovic Maublanc, ou le point rouge, il faut donner une mauvaise réponse. De quelle couleur sont les schtroumpfs? Je montre le point rouge et tu réponds?
Violet.
Vert, jaune, orange.
J'ai dit violet.
Ah. Ça aurait tout été des bonnes réponses. Et donc, la première réponse, si elle est convenable, bonne quand il faut et mauvaise quand il le faut, le joueur marque un point. Par contre, si tu réponds trop vite et que tu donnes une bonne réponse quand il en fallait une mauvaise ou une mauvaise quand il en fallait une bonne, tu fais moins un point.
Moins un point, c'est-à-dire qu'on rend une carte, on part avec la carte?
Donc, on donne la carte côté question si c'est plus un et on donne la carte au côté verso si c'est moins un.
Et c'est tout.
Chaque joueur pose 5 questions. Celui qui a le plus de points après que tout le monde ait été lecteur gagne la partie.
Impeccable.
On a une petite subtilité. Il y a même des questions absurdes. Questions absurdes, c'est à peu près 10% du jeu. Des questions auxquelles il n'y a pas de réponse logique.
C'est-à-dire?
De quelle couleur sont les lettres de l'alphabet? Quand on entend une question absurde, la seule réponse convenable, c'est de s'écrier...
C'est pas faux!
Voilà!
C'est le premier qui dit c'est pas faux qui remporte le point.
Ou si la première personne qui répond dit jaune ou n'importe quelle réponse qui n'est pas convenable, elle va perdre un point.
Voilà. D'accord. Et comment s'est fait la rencontre avec ce jeu-là, avec Ludovic et Bruno?
Alors, je connaissais déjà les deux parce que, bon, on devient amis au fil de...
Carrément!
Et ce jeu avait été publié dans le Ludibook Brin de Jazette Twist par l'éditeur d'Ottawa canadien, Brin de Jazette, donc, dans une forme différente, parce que c'était dans un livre. J'avais trouvé le principe intéressant, mais à l'époque, il fallait juste donner des mauvaises réponses, et donc à la longue, ça devenait un peu facile. Et en réintroduisant parfois de bonnes réponses, mais là, ça donne juste assez de challenge pour que le jeu soit plus au point et vendable, en fait.
Et donc, ça avait été fait par Ludovic et Bruno, déjà à l'époque, dans ce quoi, Ludobook, c'est ça que tu dis?
Dans un Ludibook. Donc, c'était une espèce de boîtier dans lequel il y avait un livre avec plusieurs jeux à l'intérieur et aussi des jetons pour jouer à Brin de Jazette classique.
Donc voilà, donc tu l'as connu et puis tu les as recontactés en disant il faut faire autre chose, en mieux?
Tout simplement.
Voilà. Toute modestie aussi.
J'aime beaucoup Edouard de Brin de Jazette.
Oui, ça c'est bien de le mettre. OK, et donc le troisième jeu, c'est Cartes sur table, c'est juste?
C'est pas faux.
Voilà. Et donc le concept de Cartes sur table, j'ai vu deux, trois explications, ça m'avait l'air aussi un petit peu décalé comme ça.
Oui, alors c'est un jeu dans lequel soit on apprend à se connaître ou on vérifie si on se connaît bien, en se taquinant bien gentiment. Chaque joueur va se faire donner par les autres joueurs, en fait, une série de cartes qui lui correspondent ou en fait le mieux possible selon ce que les autres avaient dans leurs mains. Par exemple, tu ne peux pas garder un secret, tu triches à des jeux et tu arrives toujours à l'avance à tes rendez-vous.
C'est pas faux.
Oui, hein? Et donc, le joueur qui a reçu ces cartes les révèle aux autres, on les lit à haute voix, et tout le monde, par un système de vote secret, vote simultanément à savoir laquelle correspond le mieux à ce joueur-là. Ce joueur-là vote aussi, mais ce n'est pas lui qui détermine quelle est la carte qui lui correspond, c'est l'ensemble du groupe, c'est la majorité. Et ceux qui auront voté avec la majorité, donc, marquent un point. Il se peut très bien que le joueur concerné vote pour un truc, par exemple, tu dis que tu arrives toujours à l'avance de tes rendez-vous, et que finalement, les quatre autres joueurs avec toi votent que tu n'es pas capable de garder un secret. Alors, c'est cette carte-là qui gagne, et c'est les joueurs qui ont voté pour le fait que tu n'es pas capable de garder un secret qui marque le point.
D'accord. Et donc, on a une série de cartes comme ça, et puis on passe de joueur en joueur, tout simple.
Oui, on fait trois manches de cette façon. Et à la quatrième et dernière manche, au lieu de se distribuer des cartes, on va reprendre pour chacun des joueurs celles qui ont été élues. Donc, si à la première manche, on a élu le fait que tu n'étais pas capable de garder un secret, à la deuxième que X et Y. Donc, il faudra faire un choix parmi ces cartes-là qui sont déjà des cartes élues, donc le choix sera plus difficile.
Mal. Et donc, ça, c'est un jeu qui vient d'où?
C'est ma création.
C'est pas vrai.
C'est pas faux.
C'est pas faux non plus. Ah oui, donc c'est un jeu Christian Lemay.
Ouais, donc...
Je te gâche que, ou ce genre de choses-là.
Alors, j'ai une idée de jeu potable aux 6-7 ans, parce que je te gâche que Bluff Party existe depuis 2006, et donc en 2012. C'est pour dire à quel point je suis sévère envers moi. Et celui-là, comme Bluff Party, je n'y croyais pas, jusqu'à temps que je le fasse tester et que ça fonctionne, ma foi, très bien. Donc, je le publie.
Donc, entre parenthèses, Bluff Party a vraiment très bien marché. Tu ne t'y attendais vraiment pas. C'est-à-dire que je te gâche que côté québécois était déjà pas mal, mais alors le fait de l'exporter, ça a été assez explosif.
Oui, oui. Ben, on a le même succès en France qu'on a eu au Québec sur les ventes. C'est vraiment... C'est presque gagné la loterie.
On est sur combien de boîtes, là?
Au Québec, juste du premier, on est assurément à 60 000 pour un marché de 6 millions, 7 millions de francophones. C'est monstrueux. Et chez Cocktail Games, je crois qu'ils sont dans le coin de 15-20 000 par année. 15 000 par année, donc c'est...
Depuis 2006?
Depuis 2009, oui. Donc, voilà, en Allemagne, ça fonctionne super bien. Il a été localisé ailleurs. Alors, j'ai eu une bonne idée.
Est-ce que ça veut dire que, d'un point de vue gestion d'entreprise, ce jeu-là permet justement de voir plus loin et d'éditer des nouvelles choses?
Ben, il m'a permis de faire Québec, tiens, parce que c'est pas le genre de... Québec, c'est un jeu qui demande du travail pendant plusieurs années. Et donc, si on est occupé à faire un jeu comme Québec, on n'est pas occupé à faire d'autres jeux qui vendent plus, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on se met... À moins de faire un Seven Wonders, on ne se met pas riche en publiant du jeu gamer.
Donc, typiquement, c'est le genre de bon calcul, quoi.
Oui, oui, oui.
Bien, ben voilà. Je pense que ça, c'est l'actu de Christian Lemay et du Scorpion Masqué. Donc, comment?
J'ai pris de l'expansion, j'ai engagé quelqu'un, toi.
Waouh, vous êtes deux?
On est un et demi, parce qu'elle fait un demi-temps.
Et que fait cette moitié?
Ben, c'est pas ma moitié, mais... Alors, Marie-Ève, maintenant, s'occupe beaucoup de communication, d'infographie, de direction artistique. Elle crée des petites vidéos explicatives des jeux avec des images de synthèse et elle en voix off, on l'entend qui explique le jeu. Alors, on fait ça pour tous les jeux. On commence par les plus récents, donc Cartes sur table est déjà en ligne. La course des étoiles aussi, c'est pas faux, dans les prochaines semaines.
Ça, c'est sur le site du Scorpion Masqué, point quelque chose?
Oui, sur YouTube. Et voilà.
C'est bien, c'est de la com, quoi.
Oui, oui, oui.
Christian, merci.
Merci à toi.
Mais non, c'est moi.
Et bonjour à toute la Belgique et la France et la Suisse et le monde de la francophonie.
Je transmettrai.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.